journée de quelqu'un. Lorsqu'il montre la guerre faite avec des nouvelles armes, eh bien, il montre, il fait pareil, il fait évoluer un personnage qui va suivre les différentes démonstrations martiales, enfin les différents prototypes ou les différents engins, et les voir en action. Mais le seul principe de ces récits, c'est la démonstration des inventions de Robida. Alors, j'ai mis ici, alors ce texte est beaucoup plus tardif, j'ai mis ici un exemplaire des Navigateurs de l'Infini de Rony Aîné. Alors Rony Aîné, c'est un bon candidat pour la science-fiction d'avant 1950, c'est-à-dire, et notamment les Navigateurs de l'Infini, qui sont un texte qui peut se lire sans aucun problème comme de la science-fiction. On peut le lire comme de la science-fiction, on peut lire beaucoup de choses. Ah oui, voilà, on peut. Moi, en tout cas, j'ai pensé le contraire au départ. Mais effectivement. Alors, donc, que se passe-t-il dans ce texte? Et pourquoi je l'ai mis là? En fait, je le place ici parce que pour moi, il est dans la continuité, justement, la continuité d'une certaine vision de la science, qui est une vision de la science d'avant 1900, d'avant Wells. C'est-à-dire que, comme je vais l'expliquer, pour moi, Wells a beaucoup changé ce type cette façon d'écrire les textes. Et Rony Aîné, qui avait commencé à écrire bien avant Wells et qui avait déjà beaucoup de choses à son actif, n'a pas été, à mon avis, aussi influencé par Wells que d'autres de ses contemporains, dont je vais parler bientôt. Et la Ligue des Voyageurs Extraordinaires, les Navigateurs de l'Infini nous présentent un voyage martien, où on voit toute une faune exotique organisée sur un principe ternaire, avec des martiens eux-mêmes organisés sur un principe ternaire, qui sont tout à fait évolués et qui sont prêts à discuter. Bon. Mais on reste sur cette logique du voyage extraordinaire, c'est-à-dire que les gens qui font leur fusée la font à titre quasi expérimental. C'est pas un programme gouvernemental, c'est pas une mise en place de quelque chose qui pourrait avoir un sens général, c'est un exploit sportif. Et l'exploit sportif, c'est-à-dire l'invention scientifique comme exploit sportif, c'est caractéristique de cette science-fiction d'avant 1950. Et ils partent à la découverte de cela, et finalement, sur Mars, ils découvrent un environnement qui n'est pas si différent de la jungle africaine rêvée à cette époque-là, y compris par Rony Aîné, dans par exemple l'étonnant voyage de Appleton à Iron Castle, on a un peu le même genre de choses, au sens où on a, dans des coins très très éloignés, on découvre des choses jusqu'ici inconnues, nouvelles. Et là, on a cette transposition d'un voyage exotique sur une autre planète. Alors, encore une fois, on peut discuter énormément de l'aspect science-fiction, parce que ce qui est frappant chez Rony Aîné, et qui montre justement une évolution, une certaine façon d'envisager l'écriture de ces textes-là, c'est que les différents éléments mentionnés, aussi bien les extraterrestres, donc les martiens, que les objets employés, les objets techniques employés par les navigateurs, sont extrêmement concrets. Il y a une volonté de rendre concret, de vraiment rendre crédible ces différents objets-là. Finalement, on reste dans une logique un peu descriptive, mais on a un début, enfin, du moins une promesse d'une mise en, enfin, comment dire, d'une mise en série de tous ces objets-là. Bon, je reviendrai un peu sur la question de la mise en série. Alors, je parlais de Wells tout à l'heure. L'influence de Wells sur l'anticipation française, donc en 1900-1950, en gros, a été déterminant, c'est-à-dire que trois textes de Wells, notamment, enfin, et de toute façon, Wells a été beaucoup publié en France, mais trois textes notamment ont été publiés en trois années de suite, en 1900, 1901 ou chose comme ça. Ces textes, c'est les textes classiques, la machine à voyager dans le temps, la guerre des mondes, les premiers hommes dans la lune. Et ce que Wells a proposé, c'est un renouvellement thématique extraordinaire. C'est-à-dire réellement envisager le contact avec des êtres nouveaux radicalement différents, extraterrestres ou descendants vraiment très différents, Morlock et Eloï, de ce que nous pouvons être. Et cette irruption du thème du différent, de l'alien, du réellement différent, ça a beaucoup changé la façon de voir des auteurs français. Et les auteurs français ont envisagé aussi beaucoup des textes qui mettent en scène du radicalement différent. Mais sauf qu'ils ont retenu des thèmes de Wells le danger, le malaise, le péril, et la façon de mettre en situation les histoires, de présenter le différent, ça a toujours été sous l'angle du conflit, et donc potentiellement sous l'angle de l'extermination de l'un ou de l'autre, l'humanité ou éventuellement les autres, et donc toujours sur quelque chose qui doit se terminer avec le livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'au-delà du livre, ou le seul au-delà du livre, c'est la leçon qu'on en a tirée parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des dangers inconnus, ou le fait que l'au-delà, c'est sans les humains. Par exemple, dans la guerre des mouches de Jacques Spitz, on finit sur le fait que le dernier humain dans un zoo est examiné par des mouches. Il n'y a pas d'au-delà de l'humanité. Mais les mouches, éventuellement, elles feront des choses formidables, mais ça sera sans nous. Vous voyez que, par exemple, le péril bleu, avec cette espèce de gigantesque insecte, là, c'est un texte tout à fait stimulant. Et, mon but n'est absolument pas de distinguer science-fiction égale bon texte et anticipation égale texte moins bon, pas du tout. C'est extrêmement stimulant, mais le principe de quelqu'un comme Maurice Renard, ça reste sur le modèle, en fait, de Jules Verne, et en fait de Wells, hein, en partie, l'idée qu'à la fin du texte, on n'ira pas plus loin. On a découvert quelque chose de nouveau, mais ce quelque chose de nouveau ne va pas modifier fondamentalement notre vision du monde. On peut la modifier, oui, mais pas notre façon de vivre. Et dans le cas du péril bleu, une chose qui est découverte, c'est que au-delà de l'atmosphère, il y a en gros des créatures invisibles qui sont très intelligentes et qui ont une technique supérieure à la nôtre, et potentiellement pourraient nous détruire, nous attaquer, parce qu'on ne peut rien faire contre elles, il n'y a pas de moyen pour s'élever dans les airs à cette époque, s'élever du moins, dépasser l'atmosphère. L'idée, c'est qu'une fois que cette découverte est faite, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a ces créatures-là, et c'est tout. Il n'est pas question de communiquer avec elles, au contraire, a priori, elles sont jugées trop différentes. Alors peut-être, on peut toujours envisager un futur au péril bleu où un contact se fait, mais ce n'est pas ce qui est envisagé par Maurice Renard. Bon, et on a évidemment la version populaire action de ce genre de choses. Le prisonnier sur la planète Mars, c'est quelqu'un qui se retrouve sur Mars et qui n'a qu'une seule envie, c'est d'en partir. Il est confronté à des vampires, il est confronté à toutes sortes de dangers, il n'a aucune envie de rester là. Et son seul but, c'est de rentrer sur Terre. Et si on compare à côté de cela le conquérant de la planète Mars de Burroughs, lui, une fois qu'il est sur Mars, il est ravi et il a qu'une seule envie, c'est d'y revenir si jamais on le fait partir de cette planète. Donc il y a cette différence un peu que je vois. Et donc le choc des titans, c'est lorsqu'on a... alors désolé, la couverture n'est pas extraordinaire, mais j'adore cette image. Alors les images viennent essentiellement de nos sphères, hein, je le signale. Lorsqu'on a... Là c'est Yves Dermez, on ne voit pas tellement son nom. Lorsque Yves Dermez, donc après-guerre, fait, qui est un auteur qui a commencé à écrire avant 1950, fait quelque chose qui est publié dans une collection de science-fiction, il est en train de... dans ce genre de texte, il fait le lien. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Un auteur comme Yves Dermez a une continuité entre la position antérieure et la position d'après. Mais il a fait évoluer son écriture, c'est-à-dire que la créature qui menace l'humanité, qui est un titan de l'espace, qui est une espèce, c'est un être-force qui se nourrit de l'énergie des êtres vivants, cet être-force se situe au niveau, enfin, il est au niveau galactique, enfin, il se déplace d'un système solaire à l'autre, il les épuise les uns après les autres, et une fois qu'il est confronté à la Terre, la menace de l'extinction intervient. Et cette menace de l'extinction est réglée par les humains, comme ils peuvent, à l'aide d'une autre invention extraordinaire, qui est une sorte de machine à néant, une espèce de bombe à néant, qui permet de détruire toute vie, y compris la vie de l'être-force. Mais bon, donc l'humanité est quasiment détruite, il reste une centaine de personnes, je ne sais plus combien, il reste très peu de gens. Et donc le combat galactique passe quasiment par l'extermination de l'humanité, encore une fois. Et pourtant, on est dans quelque chose qui a pris de l'ampleur, énormément d'ampleur. Et lorsqu'on regarde en revanche ce qui se passe chez Van Vogt parallèlement, eh bien, chez Van Vogt, on a une humanité triomphante, confrontée à des créatures extraordinaires, elle aussi, et notamment très très proche de cela, mais créatures qui peu à peu est comprise, analysée, et c'est en la comprenant et en l'analysant qu'on trouve ses faiblesses et ses défauts, et donc on l'élimine, et après cela, bah, le Space Beagle qui... oui, c'est Zorl, quelque chose comme ça, oui. Curl. Mais c'est un Zorl, et c'est, ça s'appelle... Oui, bon, ok. Et donc, dans cette, la logique de la faune de l'espace, eh bien, on a de l'exploration qui s'affronte à des créatures extraordinaires, mais on les comprend, peu à peu, on les domine, et elles se mettent à faire partie de l'ordre du monde, et comme elles font partie de l'ordre du monde, eh bien, on peut les régler leurs problèmes scientifiquement. Alors, bon, excuse-moi scientifiquement, parce que c'est vraiment... Mais disons qu'on n'a pas, pas exactement la même logique. Vous voyez un petit peu la séparation qu'on peut faire entre les deux. Sur un élan qui est finalement le même, quand on poursuit un peu la logique de l'anticipation à la française, on a toujours cet aspect d'anomalie. C'est-à-dire qu'on va avoir une chose à régler, on va la régler avec une autre chose exceptionnelle, la bombe à néant qui sort d'un peu nulle part, et on finit là-dessus avec l'impression que ça y est, on est sauvé, mais quasiment tout le monde est mort. Bon, voilà un peu la logique. Et alors, si je propose rapidement une... je parle beaucoup trop longtemps. Si je propose rapidement une petite... deux portraits comparés en 1950. L'anticipation à la française, c'est des romans isolés. Alors, il y a des collections, Talandier notamment, qui publie quand même un certain nombre de romans de ce genre, mais ils ne sont pas identifiés comme lisez des romans d'anticipation, avec un bandeau anticipation dessus. C'est une variante du style réaliste, alors variante au sens où les auteurs eux-mêmes se considèrent qu'ils sont en train de pousser un peu par rapport à ce qu'on écrit normalement, mais dans leur logique, ils écrivent comme on écrivait des romans réalistes à l'époque. Ils critiquent la science et la technique, donc d'une manière générale, la science, c'est ce qui va amener des découvertes potentiellement néfastes, enthousiasmantes au départ, mais qui ont des effets secondaires négatifs, certaines angoisses de l'avenir, et il y a une tendance assez prononcée à l'humour, et à la satire. Je pense notamment à la guerre des mouches, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Jacques Spitz, évidemment, parodie la guerre des mondes, et en même temps, il se moque, les mouches sont là pour se moquer des prétentions militaristes, à l'époque, c'est en 1938, les prétentions militaristes en Europe. Parce que dire que les Allemands ne font pas un pli face aux mouches, par exemple. Et donc, en revanche, dans la science-fiction à l'américaine, on a l'impression d'avoir une continuité importante. C'est-à-dire, quand on lit une nouvelle d'un auteur américain, qu'on en lit une deuxième, on pourrait être dans le même monde, ou quasiment. On a un peu l'impression d'une espèce de monde partagé. Alors évidemment, au fur et à mesure, les auteurs américains font chacun leur monde, de plus en plus, mais il y a cette impression qu'on est dans une grande structure partagée, dès le départ. Et cette structure partagée, c'est ce qui donne au-delà la question de la culture de science-fiction que vous connaissez bien. On a des inventions lexicales, donc l'importance de néologisme et puis l'idée qu'une nouvelle chose a forcément un nouveau nom et que ces nouveaux noms ne sont pas forcément des mots valises. L'apologie d'une science capable de résoudre tous les problèmes, ça c'est en 1950, on est bien d'accord. Mais au départ, à ce moment-là, on a une science extrêmement positive. Et ce qui est quand même plutôt sympathique avec des futurs héroïques, et c'est très très premier degré. Enfin, on a assez peu de. Enfin, bien sûr, Frederick Brown par exemple, bon, il y a de l'humour, mais cet humour, alors c'est ça qui. C'est la différence que je ferai entre l'humour de type Brown ou Shakley et l'humour d'un Spitz, une satire comme ce que peut faire Spitz, c'est que l'humour de Brown ou Shakley, il est dirigé vers la science-fiction. C'est une façon de faire de la science-fiction humoristique. On rigole, on s'amuse avec les images de la science-fiction. Alors que la satire d'un Spitz, c'est je pointe le monde réel et je me moque du monde réel à travers de ma propre histoire. Donc on n'est pas. Enfin, mon but, c'est pas distinguer à tout prix. Hein. On peut trouver de l'humour, on peut trouver l'angoisse de l'avenir dans la science-fiction américaine, c'est possible. Mais je parle de grands traits. Qui apparaissent et qui font que les Français ont l'impression que vraiment quelque chose de nouveau est en train de se jouer en 1950. Alors, comme théoriquement il me reste 5 minutes pour parler des 60 ans, voilà, je vais continuer jusqu'à ce qu'on me mette dehors, on va dire, mais bon, on va quand même avancer un petit peu. Alors, je peux aller relativement vite, simplement. Voilà, il n'y a rien, c'est facile. Voilà, donc, dans les années 1950, donc là, j'ai tendance, parce que j'ai travaillé sur l'histoire de la science-fiction française, donc là, je justifie juste très très vite pourquoi je parle de science-fiction française après 1950 et pas avant, pour moi, il y a un critère très simple qui est que je me base sur la question du nom, c'est-à-dire que le nom n'existe pas. Alors, c'est pas spécieux. Bien sûr qu'il y a des traits communs, et j'ai parlé d'ailleurs de science-fiction d'avant 1950, il y a des traits communs, mais au sens large, bah oui, on peut parler science-fiction, si par science-fiction on entend, dès qu'il y a une image de la science quelque part, une spéculation sur un autre lieu, bah oui, si on veut l'appeler comme ça, bon, ça me va, je veux bien, mais c'est un sens très large. Moi, je l'utilise dans un sens restreint, qui est ce que les Français avaient en tête quand ils ont écrit la science-fiction. C'est-à-dire, c'est la science-fiction volontaire, avec cette idée que, pour moi, la science-fiction, c'est un genre dans lequel les auteurs auxquels les auteurs ont conscience de participer, ont conscience d'apporter quelque chose de nouveau. Et donc pour moi, cette conscience d'écriture, elle est importante. Bon, après, le nom lui-même a peu d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est cette idée de conscience d'écriture. Et avec cette conscience d'écriture vient une chose qui est qu'à un moment donné, on a une certaine vision de ce que c'est que la science-fiction. Et cette vision de ce que c'est que la science-fiction, bon, j'appelle ça un paradigme dominant, bon, c'est une façon de considérer la science-fiction à une époque qui regroupe certains thèmes et qui change un peu la manière de voir ces thèmes-là. Donc, dans les années 1950, l'identification de la science-fiction elle est très simple, c'est l'espace. Il faut aller dans l'espace. Alors, bien sûr, il y a des textes qui contrastent par rapport à ça, mais la majorité, l'important des textes, c'est il faut aller dans l'espace. Avec ce problème qui est que, au départ, aller dans l'espace. Alors, au départ, aller dans l'espace, bon, ben, ça peut se faire. Donc là, on a la continuation de l'anticipation d'avant-guerre, des conquérants de l'univers, c'est-à-dire des gens qui sont dans une fusée, qui vont explorer de planète en planète, et qui voient de très nombreuses choses sur ces planètes-là. Et quand ils reviennent, ben, finalement, le monde n'a pas tellement changé. Hein. Ils arrivent, voilà, personne n'est vraiment au courant de ce qu'ils ont fait, ou juste ils sont au courant, mais ça n'a pas changé grand-chose à ce stade. Mais il y a quand même cette ouverture, et là, on est donc quelque chose qui va vers justement la science-fiction. Progressivement, au fur et à mesure des romans de Richard Bessières, eh bien, on va de plus en plus vers l'idée que quelque chose a changé. Et donc, c'est parti au départ comme un roman d'anticipation à la Verne ou à la Wells, et on arrive à quelque chose qui est déjà plus proche de la science-fiction, et au fur et à mesure, Richard Bessières fait tout à fait la science-fiction. Et alors, ce que je disais, c'est qu'aller dans l'espace, c'est pas forcément facile. Au début, les auteurs français, ils envisagent le fait d'aller dans l'espace comme quelque chose qui leur est à moitié imposé, qui arrive par hasard. Des extraterrestres arrivent, l'homme de l'espace, bon, vous connaissez Jimmy Guillou et le thème de la soucoupe volante, l'idée c'est vraiment que les humains sont sur leur planète et puis des extraterrestres viennent les voir, ils leur expliquent que le monde est plus large que ce qu'ils connaissent et ils leur donnent éventuellement la possibilité de voyager selon les textes. Et dans ce Nulle part de Francis Cursac, on a un aventurier français, enfin un français qui involontairement est embarqué dans une guerre interstellaire. Bon, voilà. Et ce qui passe très différent de ce qui s'écrit dans les premiers space opéras américains des années 30. Dans Hommes en série de Stéphane Hull, on a de la même manière le transfert qui est subi. Les pauvres humains ont complètement dégénéré, ils ont une logique de type fourmi, et ils n'ont plus d'intelligence. Et il se trouve que des extraterrestres, les hommes, donc pas les hommes, les... comment ils s'appellent le nom m'échappe, et des géants.
Les dragues,
voilà, excusez-moi. Les dragues, donc des espèces de géants aquatiques, les ont recueillis, on en fait des animaux de compagnie, et ces animaux de compagnie humains, les hommes, écrit comme ça, se mettent à recouvrer leur intelligence. Et c'est par une espèce d'enlèvement qu'après coup, les humains arrivent à une espèce de statut d'univers. Donc l'accès à l'espace, c'est pas forcément facile. Et alors, mais bon, ça change au fur et à mesure, et notamment Gérard Klein dans Gambit des étoiles met en scène cette accession. C'est-à-dire que le principe du Gambit des étoiles, c'est au début, les humains, ils ont beaucoup de mal dans un espace qui est beaucoup trop grand et qui correspond à un temps et un espace beaucoup trop large. Et il donne les moyens, dans le roman, de dépasser les obstacles de l'infini. Alors, bon, je vais avancer relativement vite. Dans les années 60, j'associe les années 60 avec l'idée de société. Alors, société lointaine, société différente, société nouvelle. Alors, ça peut être comme dans La Machine du Pouvoir, une technocratie à l'échelle générale du système solaire. Dans Le Signe du Chien, Jean Hougon, on a la confrontation entre une sorte de confédération galactique extrêmement importante et une espèce de petite planète qui refuse le progrès technique pour un certain nombre de raisons et qui est en fait manipulée par des espèces de dictateurs cachés. Mais voilà, donc on explore cette société, on voit comment elle fonctionne et comment elle est mystifiée. Dans les improbables de Kirchsteiner, là, c'est le voyage temporel qui est impliqué. C'est-à-dire qu'en voyageant dans le temps, on a accès non pas à du passé, là c'est pas des réécritures du passé, mais on a accès à des différentes sociétés futuristes possibles qui ont des coutumes diverses, notamment le cannibalisme, justifié par plusieurs raisons. Dans Les Hommes Machines contre Gandahar, on a là, on est clairement dans un espace différent, une planète qui vit dans un environnement plutôt, disons, de gestion avec des OGM divers, ils maîtrisent la nature autour d'eux, et ils sont confrontés à une invasion venue du futur de robots. Donc on a la confrontation de deux systèmes possibles, l'un fasciste et l'autre plutôt écologique. Et dans Les Seigneurs de la Guerre, on a ici plusieurs, on a la projection à l'échelle de l'univers quasiment, enfin moins de notre galaxie, on a une projection de ce que ce qu'une société pourrait être à l'échelle d'une galaxie, sachant que ça n'est que suggéré dans ce texte, puisque c'est l'horizon qui est peu à peu découvert par le personnage principal. Mais il passe entre-temps par plusieurs sociétés différentes. Donc il y a cette idée, vous voyez, on a le voyage dans le temps, on a le voyage dans l'espace, ça reste important, mais le centre, c'est la question de la société. Alors, si j'avance rapidement, les années 70, c'est assez connu en général, on a des mondes piégés, c'est difficile, les gens sont... dans des situations difficiles, on est dans des dimensions qui changent de réalité, changent la réalité tout le temps. On a des individus au super pouvoir, enfin au pouvoir de changer la réalité, du coup, qui changent énormément de choses. On est dans la réalité virtuelle, enfin, on entre dans toute une série de thématiques qu'on connaît bien. On a cette idée que la société elle-même devient un piège et qu'elle va, dans le mur, elle va à l'apocalypse. Et donc, société piégée extraordinaire, c'est le Parabellum Tango de Pierre Pelot. Où les individus, en fait, sans le savoir, ont chacun avec eux, alors c'est une espèce d'iPad à fourrure, ça, en fait, avec leur petit iPad à fourrure, ils sont surveillés en permanence par une créature qui est avec eux, qui ne les quitte jamais, et qui, en fait, les espionne en permanence, et qui est susceptible de les tuer, en fait, s'ils peuvent les mettre à mort. Donc ça, c'est sur nos choses. Alors, dans les années 80, on dépasse un peu ça, on va vers la lutte pour la survie, donc avec la Compagnie des Glaces, donc Georges Arnaud, vous pourrez parler tout à l'heure, bon, les différentes choses qu'on peut avoir. On va progressivement dans les années 80, de quelque chose qui est une situation assez apocalyptique et difficile, vers une situation plus, avec l'idée qu'on peut survivre. C'est-à-dire qu'au départ, on a un peu l'impression que c'est mal parti, que tout le monde va, enfin que l'extermination est proche, et on a plusieurs mondes post-apocalyptiques. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les années 80, des textes plus positifs, plus optimistes arrivent. Optimiste, c'est beaucoup dire, parce que dans La mort marchait dans les rues, tout le monde meurt, évidemment. Ou presque. Mais bon. Et ce qui fait qu'on arrive dans les années 90 avec une forme de retour de l'avenir. L'avenir est possible, l'avenir est dans l'espace, l'avenir est dans tous les mondes que les humains peuvent peupler. Et là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus stabilisé. Et l'avenir aussi, alors c'est assez particulier, donc bon, les guerriers du silence, donc grande fresque. Et ce qui est assez particulier, c'est que le cyberpunk à la française, me semble-t-il, a presque plus positif, enfin c'est un peu paradoxal, mais vu le degré de négativité qu'il y a dans les années 80 et les mondes de piégés qu'il y a pu y avoir avant, les mondes cyberpunk à la française sont presque plus positifs parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui s'y font, beaucoup de choses qui se créent, et du coup, on est moins dans ce désert urbain, dans cette condamnation. On est au contraire dans l'idée d'un monde global qui progresse et qui a de nouvelles possibilités. Bon, ça reste négatif parce que malgré tout, il y a des décharges publiques, il y a des grandes corporations qui dominent le monde et ainsi de suite. Mais on est quand même quelque chose d'un peu plus positif. Et alors un exemple de texte extrêmement positif et tourné vers l'avenir, Le Chant du Cosmos de Hans Wegener, qui nous présente. Là, pour le coup, un avenir absolument radieux où l'humanité est intégrée au cosmos. En fait. Et alors, pour les années 2000, j'ai pas le recul pour proposer un sens général à ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je parle de dispersion créative. Mais alors, les contacts avec tous les mondes de l'imaginaire, au sens large, comme on dit, et de la fantasy notamment, modifient un peu les enjeux de la science-fiction d'une manière que je ne peux pas évaluer actuellement. Donc on a toutes sortes de choses qui peuvent se faire, donc aussi bien la science-fiction d'Olivier Paquet ou Laurent Jeunefort qui imagine ou de Joël Vintrebert, que de l'anticipation à relativement court terme, comme Aqua ou comme le Dark Blues. Voilà, bon, on retrouve toutes sortes de choses, mais je ne peux pas vraiment qualifier, et puis j'ai déjà beaucoup parlé. Voilà. Pour le coup, on a un peu de battement, mais je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions. Oui, donc bah, si quelqu'un veut intervenir, critiquer, demander des précisions. Oui ?
Moi, j'ai raté le début, excusez-moi. Ah, avez-vous évoqué Jules Verne ?
Oui. Oui, j'ai. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est dans quelle mesure on retrouve Jules Verne ici. Alors, enfin, justement, je n'ai pas précisé ce que j'avais dit que j'allais préciser. On ne retrouve pas vraiment Jules Verne dans ses auteurs contemporains, ou à partir de 1950. Ce qu'on retrouve, c'est. On retrouve des choses communes, c'est-à-dire cette idée d'anticiper sur un objet technique, cette idée de voir du nouveau. Mais on ne retrouve pas cette simplicité, au sens positif. De l'intrigue, c'est-à-dire le simple fait de voir quelque chose de nouveau, de voir de nouveaux paysages qui peut être fascinant. Dans les descriptions extrêmement longues des différents poissons qu'on peut trouver dans les fonds marins, on ne retrouve pas ce genre de choses. On va de plus en plus vers quelque chose qui est allusif, qui est fonctionnel et où le lecteur a par rapport à Jules Verne, de plus en plus la tâche de créer le monde lui-même. Je veux dire que comme on a énormément de points de repère, même des gens qui ne sont pas forcément des grands lecteurs de science-fiction, des points de repère sur ce qu'il y a dans un monde, on comble les vides beaucoup plus facilement actuellement. Et donc on n'a pas besoin, enfin, on n'a pas envie même de ces grands panoramas.
Pourtant, Jules Verne était connu des Américains, publié dans les premiers peuples, donc l'influence ne peut pas être indirecte en passant par les...
Alors, Jules Verne publié dans les premiers pulps. Ben, bien sûr que les premiers pulps ont publié des textes. Un des problèmes qui se pose lorsque on envisage, enfin lorsqu'on veut faire quelque chose, disons de nouveau, comme ce qui a pu être le cas dans les pulps. Un des problèmes pour ces pulps, c'est finalement, mais sur quoi se baser? Quels exemples donner? Soit on a une école, une bande de gens tout à fait capables d'écrire, comme les surréalistes ont pu faire. Ils sont nombreux à pouvoir écrire, et encore, ils s'appuient déjà sur ce qui s'est fait chez Dada. Bon, mais ils s'appuient sur un ensemble de choses. Et eux-mêmes, ils peuvent produire énormément. Ils produisent énormément. Donc, s'il se trouve un ou deux précurseurs, ces précurseurs sont facilement intégrés. Dans le cas des pulps, il faut un produit d'appel. Ce produit d'appel, c'est les gens qui, à un moment ou à un autre, ou d'une façon ou d'une autre, ont introduit des objets scientifiques dans leur texte. Mais il ne s'agit pas de refaire ce qu'ils ont fait. Il s'agit de partir de là. Et ce qui s'est passé, c'est que... ce qui s'est passé, c'est que, finalement, il y a aussi... un regard qui est jeté sur les gens. Lorsque, de nos jours, un amateur de science-fiction lit Jules Verne, je pense qu'il va survaloriser tous les aspects qui lui rappellent la science-fiction. Il va voir les choses dont il se dit, mais voilà, là il y a de l'anticipation, là il y a un effet d'eux, et il va valoriser ces aspects. Et si on publie dans un pulp qui dit, voilà la science, voilà les nouveautés scientifiques, voilà de l'anticipation, voilà de la création, futur, et que les lecteurs abordent ces textes-là en se disant « voilà ce que je vais y trouver », eh bien ils vont survaloriser ces éléments-là. Mais le fait est qu'on ne peut pas mettre côte à côte ce que les Américains ont écrit ensuite très vite dans les pulps et les textes de Verne correspondants. Et en tout cas, je n'y vois pas énormément de points de contact. Éventuellement, il y a le schéma de l'ingénieur dans son garage qui crée une machine nouvelle, et avec cette machine nouvelle, il fait quelque chose. La différence fondamentale étant que les Américains, assez naturellement, quand ils voient une invention dans un texte de Verne, quand je dis les Américains, c'est une simplification, une archi-simplification, mais les Américains des années 30, s'ils voient une invention dans un texte de Verne, eh bien ils se disent, bon, mais ça, il suffit de déposer le brevet, ensuite on crée un modèle industriel, on le fait fabriquer en série, on le vend, et ça fait un profit. Ce que je veux dire, c'est que cette logique-là, cette logique de la fordisation, de l'industrialisation, de la création en série, elle est extrêmement importante à la fin des années 20, au début des années 30. Donc quand on voit un objet technique, on pense au brevet qu'on peut déposer pour gagner de l'argent, en le produisant en série. Quand Verne, il pense à son film machine, il pense juste, quel va être le nouvel exploit sportif. Sportif au sens positif, encore une fois. La nouvelle preuve de l'humanité. Oui.
Il y a une chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit. Vous avez caractérisé dans la science-fiction américaine le fait qu'on faisait l'apologie d'une science qui était capable de résoudre tous les problèmes. Et ce qui me frappe, c'est le transfert qui s'est fait dans le domaine policier. Parce que quand vous avez dit ça, j'ai immédiatement vu les séries des experts et toute cette déferlante de séries télévisées qui manifestement relève de la même logique.
Oui, alors il y a cette idée, alors on peut faire un grand trait, comme je le fais moi-même, les simplifications sur l'esprit des Américains, c'est quand même compliqué, on va devoir arrêter. Mais effectivement, vous avez raison, c'est la même logique, c'est-à-dire la science est positive, la science apporte des solutions. Et cette idée-là, elle traverse la littérature et la culture américaine. Merci.
Avez-vous cité par Javel,
non, je n'ai pas cité, parce que j'avais beaucoup de choses à citer. Ah, j'ai pas vu parler de tout. Mais effectivement, Barjavel est un cas un peu problématique. Enfin, problématique, disons.